Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensace.
Bouillard !
Bienvenue, bienvenue dans Croissant Outcast numéro 3. Déjà ? Notre pas de côté, notre écart par rapport à notre émission régulière qui est Comics Outcast, dont nous venons de décerner les récompenses lors de la désormais fameuse cérémonie des Bouillas d'Or qui ne saurait tarder à arriver dans vos esgourdes.
Peut-être même déjà arrivé quand vous écoutez.
Peut-être même déjà arrivé. Le temps, ça c'est le changement d'heure. On ne s'y retrouve plus, ma pauvre dame. Le concept de Croissant Outcast est que nous allons parler de bandes dessinées, de mangas, de comics, mais en version française. Quatre membres de l'équipe, quatre coups de cœur pour partager avec vous ce qui nous a fait vibrer pour lancer notre voyage hérétique dans le multivers. Je laisse la parole à Regan.
Bonjour, bonsoir.
Comment ça va, Regan ?
Ça va et toi ? La surprise.
Ouais, bah oui, pourtant, c'était pas comme si on avait dit qu'on commençait par toi.
Exactement.
De quoi vas-tu nous parler ? Ton coup de cœur ?
Eh bien, écoutez, je vais vous parler d'une petite BD sortie chez 404 Comics. Oups, pardon, 404 Graphics.
Eh oui.
Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs précédemment. Et je vais vous parler de Au-dedans, qui est leur titre qui est sorti en janvier de cette année, 2024. Pour la modique somme de 26,60€, c'est un one-shot. C'est une biographie, fiction-biographie, enfin c'est... avec quelques éléments un peu, on va dire, rajoutés, mais c'est bien l'idée d'une biographie. Et l'auteur est Will MacPhail. De quoi ça parle ? Eh bien, le récit est une forme d'autobiographie à peine romancée d'un illustrateur qui se nommerait Nick, citadin et un peu blasé du quotidien, entre un travail qui n'est pas aussi épanouissant qu'il l'espérait et des relations sociales qui passent telles des automatismes sans saveur. Même au sein de sa famille, la vie est vraiment en mode automatique, des échanges un peu plats, pas très intéressants. Il ne trouve pas de saveur dans sa vie du quotidien. Il se demande d'ailleurs s'il n'y a plus que les façades que nous portons les uns face aux autres, histoire de la bienséance, et où se cache l'humain d'ailleurs derrière toute cette routine. Donc ça va être ce cheminement, il va essayer de se demander est-ce qu'on peut aller plus loin que juste le chit-chat, comme dirait l'autre. Et pour le coup, c'est un gros coup de cœur. Après Lonely, qu'on vous avait déjà parlé à maintes reprises ici, on continue dans les comics qui questionnent et qui touchent juste. Alors, c'est tragico-comique un petit peu. C'est un savant dosage entre profondeur et légèreté, entre comique et tragédie, entre tradition et modernité, j'ai presque envie de vous dire.
Ça se passe au Japon ?
Non, pas du tout. Mais on se retrouve vraiment à se poser des questions sur le poids des conventions sociales. C'est extrêmement bien écrit, c'est très touchant. Il y a de quoi verser sa petite larme, j'ai averti quand même à l'avance. Mais pour le coup, c'est un titre fort et que je ne saurais que trop vous recommander. Et je rajouterai que l'édition, encore une fois, chez 404 et pour changer, est absolument magnifique. C'est vraiment une belle, belle, belle découverte. Pour un titre qui ne nous avait pas forcément... Enfin, c'est parti titre qu'on voit passer, qu'on ne se jette pas forcément dessus. Et ravi d'avoir fait ce rattrapage tout récemment, avec des illustrations qui, au premier abord, sont assez simples, mais cachent un diamant d'innocence que je vous recommande chaudement. Et d'ailleurs, je sais que des camarades autour de la table l'ont lu.
Oui. Alors,
oui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Pour ma part, c'est un titre qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai été vraiment charmée par le dessin. Pour moi, il manque un truc au niveau de l'histoire, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Il y a un truc qui m'a manqué, mais j'arriverai pas à l'expliquer ni à le préciser. Par contre, le dessin est incroyable. C'est beau, c'est doux, c'est amer, c'est un peu triste, mais c'est porté d'espoir. Et c'est un grand oui quand même. Hein. C'est un grand oui, malgré tout.
Cool.
Ouais, et puis pareil pour moi au niveau de la lecture. Alors, je vais pas dire un monde de plaisir, c'est peut-être pas le cas. J'ai un avis différent que toi, Luc, sur les dessins. C'est moins ça qui m'a marqué pour le coup que l'écriture en elle-même. Enfin, c'est plutôt l'inverse de toi, en l'occurrence. Mais c'est vraiment un très bon titre qui va attaquer comme la vie peut vous attaquer par surprise, le livre arrive très bien à le faire ressentir ou à le créer ce sentiment sentiment de surprise qui est vraiment bien fait.
Se faire cueillir.
Ouais. Et plutôt dur. Je recommanderais pas ça à tout le monde si vous êtes en état plutôt moyen. Voilà. Mais sinon.
Ok, donc une belle œuvre, mais qui ne s'inscrit pas sous le signe de la gaudriole et de la déconnade.
C'est alors, il y a beaucoup d'humour quand même, je tiens à le préciser.
Oui, ouais, mais c'est pas lol. Quoi.
C'est juste que c'est malin. C'est... Vous êtes caustique.
Vous êtes caustique, monsieur Pierre. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, ça m'a l'air d'être effectivement
Cette émission a pris 20 ans.
Un bien bel ouvrage, une très belle édition, du papier de belle qualité, une mise en page. Une mise en case aussi assez particulière qui vaut très certainement le détour. Merci Regan.
Merci à vous.
Sans transition, Lux, que nous as-tu déniché ?
Alors, je vous ai déniché un bouquin d'utilité publique.
Bien.
Voilà, je tranche comme ça. Je vous ai déniché Goupil ou Face.
Ah.
Un bouquin, c'est une autobiographie, on va dire, par une autrice qui s'appelle Lou Luby, qui est une jeune femme originaire de La Réunion, qui a fait plein de BD, et qui un jour a décidé de raconter son histoire son histoire d'errance médicale et de troubles mentaux. Quelle horreur, mais pourtant. Quelle horreur, mais pourtant. Donc Lou, la BD, c'est son histoire. Donc, c'est une jeune femme qui, en grandissant, voit son quotidien perturbé par des troubles mentaux. Oh. Elle passe par une longue errance médicale où on va lui donner plusieurs diagnostics, plusieurs pistes, plusieurs médicaments. Et en fait, il n'y a rien qui va. Et c'est complètement le bordel dans sa vie, c'est complètement le bordel dans ses émotions. Mmh. Vraiment, elle est perdue. Jusqu'au jour où elle va tomber sur une praticienne qui va lui parler de cyclothymie. Alors, qu'est-ce que c'est la cyclothymie ? La cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur de la famille des bipolarités. Mmh. Donc là, un monde nouveau va s'ouvrir à elle avec un traitement médical et un suivi psychologique et psychiatrique qui vont l'aider. Mmh. Et elle va en fait, à travers la BD, représenter son mal, son trouble, sous la forme d'un renard qui va l'accompagner et qui parfois se mue, parce que donc le principe de la cyclothymie, de la bipolarité, etc., c'est l'oscillation entre des périodes de down, donc de dépression, et des périodes de manie, où c'est la cucaracha tous les jours, au point de potentiellement se mettre en danger, etc., etc. Donc le but du jeu, ça va être d'apprendre à vivre avec ces différentes facettes de personnalité et d'humeur, et de vivre sa vie le mieux possible. Pourquoi c'est d'utilité publique ? Ben, tout simplement parce que si vous avez une personne bipolaire dans votre entourage, cet ouvrage va vous donner des explications scientifiques, va vous donner des chiffres et va vous donner des clés. Donc en tant que personne malade, déjà ça va vachement vous aider, ça va vachement vous éclairer sur ce que peut être votre maladie, etc. Mais en tant qu'accompagnant, aidant et proche, ça va vous donner plein d'astuces, plein de directions, on va dire, intelligentes pour pouvoir prendre soin des personnes que vous aimez et qui peuvent être atteintes de ces maux.
Très très bien.
Donc concrètement, c'est aux éditions Delcourt, ça a été édité en 2016, il y a eu une réédition augmentée en 2019 où il y a un petit livret de 10 pages directement destiné aux proches qui a été ajouté.
Très bien.
Ça fait à peu près 150 pages. C'est bourré d'humour, c'est frais, c'est mignon, le dessin est choupi tout plein. Je vous montrerai tout à l'heure, je ferai tourner le livre. Donc du coup, c'est un sujet qui est très grave et qui en même temps est traité, mais de façon légère, mais pas dans le sens superficiel. Et exactement, c'est pas du tout dramatique. Ça donne beaucoup d'espoir. Et voilà. Et c'est vraiment un bouquin, ça me tenait à cœur d'en parler, parce que je pense vraiment que ça peut... il faut savoir qu'il y a 6% de la population qui est atteinte de troubles de l'humeur. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui en souffre. Offrez-lui ce bouquin, offrez-vous ce bouquin et parlez-en.
Très bien.
Voilà, et c'est 18 euros à peu près.
Oui.
Alors offrez-lui, il faut peut-être faire attention, il y a peut-être des gens qui pourraient peut-être mal le prendre, je sais pas.
Bah attendez de voir si la personne est diagnostiquée, peut-être.
Oups.
Genre, j'ai lu ça, j'ai pensé à toi.
Autour de la table, quelqu'un a mis les pattes de renard.
Pas encore, mais du coup, ça va être l'occasion.
Ouais, exact. Exact, exact. Très bien, merci Lux.
T'en prie.
Je passe... sans coup faire rire, le relais AXT.
Oui. Alors, Je vais vous parler d'un livre, donc en l'occurrence un manga, un volume, donc, et qui a un trait pas très très manga, si vous avez l'occasion d'y jeter un œil. C'est un manga qui s'appelle Helter Skelter, donc pour ceux qui voient la référence à oui. l'asile, en tout cas qui est une référence sur la santé mentale en l'occurrence. Oui. C'est écrit par Kyoko Okazaki. Ça vaut 17,80€ et c'est édité chez l'atelier Akatombo. C'est un livre qui est sorti originellement en 2003. Je pense que le marqueur est relativement important pour le sujet donc qu'on va évoquer. Parce que ça va nous parler du paraître, de le coût humain sur ce qu'est d'être célèbre, ce qu'est d'être riche et sur la vision qu'on a de nous-mêmes sur notre physique et sur notre manière d'être. Pourquoi je fais la référence en 2000 ? Parce que c'était clairement la période de la mode où plus être le plus mec possible était au point de se faire mal, était presque une... Ben, c'était la mode, quoi. Enfin, Bridget Jones, on le rappelle, a été considérée comme grosse hein, enfin, quand c'est sorti. Donc bon... donc ça nous raconte l'histoire de Ririko, cette star médiatique riche, célèbre, tout lui sourit, elle est belle, elle sort avec un fils d'un grand groupe type LVMH ou ce genre de choses, la belle vie si je puis dire quoi. Mais Ririko elle est pas tout à fait là par hasard quand même. Ririko en fait elle a un peu négocié tout ça, elle a fait une forme de pacte avec le diable. Oh. Son corps est complètement artificiel car via un hôpital de chirurgie et via la consommation de médicaments relativement interdits, son corps a été enhanced dans sa beauté, c'est-à-dire que dans un excès si important que la vie renversera contre elle au point de lui détruire sa peau. En fait, elle a une date de péremption. Ouais, on s'est dit texto qu'elle a une date de péremption, elle, comme un objet. C'est vraiment vu comme un objet qui est mis au devant de la scène, qui, elle, ne se voit et ne se juge elle-même que par son physique. Et on assiste à sa déchéance, à sa dégradation d'un point de vue tout à fait d'un point de vue public et d'un point de vue d'elle-même, et à quel point ça l'emmène dans une certaine folie, et à quel point elle sera seule dans sa chute aux enfers, à quel point elle est manipulée par ces personnes qui lui auront amené à faire cette chirurgie, et voir sa déchéance au fur et à mesure. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'on le voit aussi, son regard sur elle-même qui évolue, et comment son refus de vieillir aussi, son refus de ne plus pouvoir être... la plus belle possible aux yeux de la société, la meilleure elle-même de la société, ou comment elle se voit la meilleure elle-même. Et on parle tellement d'elle comme un objet qu'on parle de la réparer quand elle a ces pourritures qui apparaissent sur sa peau. Blah. Et donc, ça, c'est extrêmement dérangeant. Je vous ai épargné les parties les plus... Je vous épargne les descriptions des parties les plus scènes de sexe, des violences psychologiques et des scènes de chirurgie qui sont dans le livre et qui sont... assez lourde et grave. On parle de manipulation et de force d'action sexuelle sur d'autres personnes. Quand je l'ai lu, j'étais assez choqué, mais pas dans le sens, mais vraiment à quel point c'était qualitatif dans ce que ça raconte. C'est saupoudré d'une enquête policière en fond. Donc il y a aussi ce côté un peu thriller qui est vraiment très sympa. Pour ceux qui voient, il y a un petit côté, pas Perfect Blue, mais vraiment ce côté, l'enquête n'est pas le cœur du sujet. Et il y a un parallèle à faire sur les sujets évoqués. Pour moi, c'est un vrai bijou. C'est en un tome, hein, ça se lit d'une traite. Enfin, et voilà. Le livre d'ailleurs a gagné le prix Tezuka à sa sortie d'ailleurs au passage.
C'est quoi le prix Tezuka ?
C'est
truc de mangas.
Truc de meilleur manga, en effet, de meilleur livre au Japon, l'équivalent du Fauve d'or.
D'accord. Merci.
Très bien, très bien. Quelqu'un a eu la possibilité de mettre ses paluches sur le manga ?
Non, mais je suis pas sûre de le faire.
Ouais.
Non, blague à part, ça a l'air d'être assez puissant comme lecture. Oui. C'est vrai que j'ai peut-être pas les nerfs assez solides pour m'y tremper, mais...
Je voulais donner une petite info à nos auditeurs. Nous n'avons pas planifié à l'avance que les sujets...
Oui, c'est vrai que là, c'est un peu rigolo dans le podcast.
C'est hein, vraiment, ce n'était pas prévu, vraiment. Hein.
C'est un format plutôt livre. Je vois qu'on me pose la question dans le chat. C'est un format plutôt livre qui fait vraiment plus format BD classique en fait,
assume jusqu'au manga.
Oui, mais c'est un peu comme les comment ça s'appelle
les urban,
les trucs urbains là.
Ouais. Oui, les mangas, oui.
Non.
Les urban link, enfin les voilà. Petits formats urbains.
Urban, comment ça s'appelle, nomade.
Mmh. Nomade, ouais.
I see what you did there.
Et toi, Matt?
Et alors, et pour ma part, moi, alors
plus de légèreté, peut-être.
Alors, à peine, mais quand même un petit peu. Ça faisait longtemps que je voulais parler de cette série de mangas et je voyais pas trop dans une review ou dans un focus comment en parler. Je vais vous parler de Justice League Dark Rebirth.
De comics alors, parce que t'as dit cette
série
de mangas.
Ouais, ah merde.
Il m'a fait peur.
J'ai eu peur. Enfin, c'est pas que j'ai eu peur, je suis pas ragaine, mais...
On va mettre ça sur le dos du changement d'heure une fois de plus. Non, bien évidemment. Allez. Merci, Lux. Il s'agit bien évidemment de comics. Justice... Oh, ben voilà. J'avais réussi à le dire une première fois, non.
C'est la version Astérix, c'est ça.
Justice League Dark Rebirth, en 4 tomes chez Urban Comics. Le numéro de page variable, mais pour l'idée, le premier tome à 232 pages, 21 €. Une série, donc tout un arc de comics. Donc les 4 tomes reprennent toute l'œuvre de James Tynion IV, hein, des comics 1 à 28 de cette série, mais également des issues de Wonder Woman, et même de la Justice League tout court. James Tynion IV et puis toute une flopée de dessinateurs de grands talents. De quoi ça parle ? Justice League Dark, déjà, c'est une équipe qui a existé par le passé et qui là est reconstituée par Wonder Woman et qui est composée de Zatanna, la magnifique Zatanna, Détective Chimp, le non moins magnifique Détective Chimp, qui apparaît d'ailleurs très régulièrement à chaque tweet qui annonce l'arrivée d'un épisode de Comics Outcast, Man-Bat, la créature des marées et John Constantine. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quel est le moteur de cette histoire ? C'est que la magie telle qu'elle est connue dans le monde de DC connaît des bouleversements majeurs. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Et le principal impact est que les incantations se retournent contre les magiciens et les magiciennes qui les prononcent. Donc il y a un gros, gros, gros problème. Wonder Woman, donc, comme je le disais, décide de former une équipe d'investigation, parce que c'est à la base une enquête. C'est pour ça que Détective Chimp se mêle à la bande, afin de comprendre l'origine de ce désordre et donc contrecarrer les conséquences néfastes. Je ne rentre pas trop dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que s'en suivent des intrigues variées, plutôt inhabituelles. Enfin, moi, j'étais pas très 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 familier de ce qui se passe. Donc, la fraîcheur était au rendez-vous. On peut faire confiance à James Tynion IV, the Fourth, pour nous proposer des histoires rondement menées, des irruptions d'ennemis. Tout aussi puissantes et puissants que parfois connus. Les aventures sont rythmées, sont accrocheuses et ça reste épique, hein, bien évidemment. Il y a des magnifiques dessins, des très belles mises en scène. Les personnages, pour autant, bénéficient aussi d'une attention particulière avec une plongée parfois dans leur passé. Je pense à Wonder Woman, à Zatanna, mais également à la créature du marais. Et ça s'accompagne souvent d'une remise en question de leur identité, de leur certitude. Ça permet de creuser les personnages d'une manière décalée. C'est touchant, c'est parfois très touchant. Et puis à la fin, il y a vraiment tout un beans, puisqu'il y a Animal Man qui se joint à la fête, etc. Donc vraiment, il y a le All-Star qui se joint à tout ça. 4 tomes, donc c'est quand même assez costaud, mais je pense que si vous accrochez au premier, vous prendrez le temps et vous irez facilement vers le deuxième, le troisième et le quatrième qui... est écrit par, en partie, Ram V. Voilà, donc on a vraiment là les...
Un petit jeune qui débute.
Un petit jeune qui débute, là. Voilà, on a un bon roster de scénaristes à la baguette. Qui a mis ses paluches sur Justice League Dark Rebirth?
Ouais. Ah, et c'était très sympa.
Ouais,
ouais, j'avais bien aimé. À noter qu'il n'y a pas besoin de prérequis.
Non,
ça peut se démarrer par là, sans avoir lu des histoires d'avant.
C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Lux XT.
Nope.
Non plus, malheureusement, à mon grand dame.
Bon. Gandalf. Mon grand dame.
Jean-Claude, grand dame.
Jean-Claude, grand dame. Punaise. Mais voilà, nous avons fait le tour. C'est donc la fin de ce petit pas de côté de Croissant Outcast numéro 3. Est-ce qu'on se dit où on se retrouve, Regan?
Oh, sur les réseaux sociaux habituels et sur le Discord, bien sûr.
Bien sûr, sur le Discord.
Prigmore sur Twitter, tout ça. J'ai revite sur Instagram. Et pour le reste, Regan, c'est déjà pas mal.
Regan point sur Discord. Lux, où peut-on te retrouver?
Sur le Discord et sur Blue Sky,
Luxbox.
Point, je sais plus quoi. Mais Luxbox, je pense que vous pouvez me trouver déjà.
Ah, t'as pas une homonyme comme sur Instagram?
J'ai une homonyme sur
Instagram.
Ouais,
mais si, il y avait quelqu'un qui avait un compte similaire au tien. C'était sur Insta, non?
Ouais, tu nous avais parlé d'histoire, oui, tu recevais des...
C'est sur Twitter.
Ah, c'est sur Twitter.
En fait, il y a une société de production qui s'appelle Luxbox et qui n'a pas de compte Twitter, et donc les trucs de films me taguent. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. C'était je réponds, not the right Luxbox.
XT.
Sur le Discord principalement, un petit peu sur Blue Sky quand l'envie m'en prend, et sinon dans mon travail, voilà. Sur GitHub.
Bah, écoute, hein, faut bien manger, hein, faut bien gagner sa croûte. Hein.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour cette revue. Alors effectivement, nous n'avions pas choisi de thème thématique, hein, mais moi ce que je retiens, c'est qu'il y a d'un côté du persona et de la vérité, de la maladie et de l'espoir, et de la marchandisation du corps. Hein, Guy Debord, si tu nous écoutes, de l'au-delà, on pense à toi, et humanité, et puis de la magie sombre, un bon cocktail pour vous permettre de passer d'excellents moments en langue française. Merci à toutes, merci à tous.
Merci.
Et rendez-vous à un prochain Croissant Outcast. Bye bye.
Fin de transmission.